Hello, c'est Audrey. Alors, avant que tu puisses écouter ton épisode, je voulais te dire qu'en ce moment, on célèbre l'épisode 150 du podcast Murmuricain. Et pour l'occasion, je t'ai concocté un quiz bien sympa pour tester tout ce que tu connais déjà du bien-être équin. Grâce à ce quiz, tu vas pouvoir te rendre compte que tu connais énormément de choses, et certaines questions sont aussi là pour te faire réfléchir. Mais pas de panique, à la fin du quiz, tu pourras télécharger toutes les réponses aux questions, accompagnées d'une réflexion sur le sujet. Le quiz est disponible dès maintenant sur le site internet murmure-animal.com/quiz. Quiz. Avec un seul Z. Je le répète encore une fois, murmure-animal.com/quiz. J'espère que ce quiz sera aussi divertissant qu'enrichissant et je te souhaite une bonne écoute de ton épisode. À très vite! Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Alors, je dis nouvel épisode, mais en fait, c'est une partie 2 de l'interview de Clémence au sujet de son cheval Tinkas. La première partie de cette interview est disponible dans l'épisode juste avant celui-ci, donc l'épisode de la semaine dernière. Et vraiment, si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, donc la première partie, je t'invite vraiment à aller le faire avant d'écouter cet épisode. Donc la deuxième partie. Dans la première partie, Clémence nous racontait comment elle avait acheté son cheval Tinkas et également comment s'était déroulé son accident qui a résulté d'une fracture de la première phalange du postérieur droit. La première partie de l'interview de Clémence s'achève sur la fin de l'opération de Tinkas pour réduire sa fracture et pour lui permettre de retrouver une vie de cheval normale. T'as maintenant eu le résumé de la première partie de l'interview avec Clémence. Je te laisse découvrir cette seconde partie d'interview où Clémence va nous raconter en fait les suites opératoires, les suites de l'opération de Tinkas, comment s'est passé le retour à la maison, comment s'est passé... Si je te raconte tout ce qui va se passer, je vais spoiler l'épisode. Donc, je ne vais pas le faire. Toujours est-il que si tu veux découvrir le dénouement heureux de l'histoire de Clémence et Tinkas, je t'invite à écouter cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute et à très vite.
J'ai dit, le plus dur est passé en fait. Là, c'était vraiment,
Ouais.
Ouais, c'était vraiment...
C'est ce que tu t'es dit à ce moment-là, tu t'es dit le plus dur est passé ou c'était une réalité à ce moment-là, le plus dur était passé?
Pour moi, c'était le plus dur. Ça a été vraiment le plus dur parce que j'ai failli perdre Tinkas. Et voilà, comme que je t'ai dit au début, Tinkas, je l'ai acheté après le décès de mon père. Et enfin, j'ai comme un truc qui me dit que c'est mon père qui me l'a mis sur mon chemin, tu vois. Parce que je pense que ça aurait été le genre de cheval qu'il aurait aimé. Et en fait, de perdre Tinka, c'était comme perdre une deuxième fois mon père, en fait. Et le fait de l'avoir, de me dire, au pire, c'est pas grave, je le mets en peluche dans un pré. Ça sera ma peluche dans un pré que j'irai brosser tous les jours s'il faut. En fait, c'était ça. Et je me dis, en fait, c'est vraiment là que je me suis rendu compte. C'est pas du sport que j'ai besoin, c'est de mon cheval. Voilà, je dis le sport est un bonus avec mon cheval. De partager une passion du sport avec mon cheval, c'est super, mais de vivre avec mon cheval, c'est ça essentiel, quoi. C'est le plus important.
Ouais. Oui, parce que vous la partagiez quand même, cette passion
oui,
du sport,
ouais,
tous les
c'est,
deux.
c'est un cheval qui est
Mais
très
là,
compétition
c'était
et
plus.
il adorait la compétition comme moi parce que voilà, il était très compétitif. C'était un cheval, on ouvrait le vent, il sautait dans le vent, hein, il n'y avait pas de problème, il savait très bien qu'on allait en concours, et il adorait ça. Donc voilà, mais là je me suis vraiment rendu compte ce jour-là que le plus important c'était mon cheval. Pour moi là, c'est je voulais mon cheval. Même si je montais plus dessus, même si on ferait plus rien, enfin de ce qu'on faisait avant, c'était lui que je voulais et rien d'autre. Hein. Et j'en voulais pas un autre, hein, parce que même pendant la nuit où il a failli passer, mon chéri, bon, peut-être un peu maladroitement, il m'a dit, mais t'inquiète pas, on en rachètera un. Je lui ai dit, mais non, j'en veux pas d'autre, quoi. C'est lui. C'est voilà, mon chéri essaie de me consoler en me disant t'inquiète pas, tu réécriras une autre histoire avec un autre cheval, que voilà, mais non, en fait non, non. Et alors que voilà, et là j'étais prête à dire je suis capable d'arrêter de monter à cheval pendant 3-4 ans, hein, je suis capable. Ça a été tellement violent, tellement dur que je me dis je veux pas revivre ça en fait. Je veux pas revivre cette violence que j'ai vécue pendant 3 jours comme ça avec les montagnes russes à espérer. Le lendemain on dit bah non ça va pas et après on dit ça va et c'était violent.
Et après, on te dit ça va pas.
Voilà, c'était très violent. Et puis les vétos, ils ont le don aussi pour pas se projeter, pour vraiment dire le minimum et être sans sentiment. C'est leur boulot aussi parce qu'il faut qu'ils soient assez objectifs.
Ouais, et puis s'ils te disent oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, votre cheval il
Voilà.
va remarcher, nickel, t'inquiète,
Ouais.
et que après c'est pas ce qui se passe, ben ça se retourne contre eux.
Voilà, ils ont beaucoup de réserves.
Comme les
Donc,
chirurgiens.
voilà, ouais, c'est ça. Et
Ils ont tendance à dire toujours à être pessimistes, on va
ils
dire.
sont, non, même, ils sont pas forcément pessimistes, mais ils sont factuels. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui,
Ouais.
c'est comme ça, et voilà, demain, on verra. D'accord.
Ils sont pas là pour nous vendre de l'espoir.
Voilà. Donc, moi, de toute façon, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à me dire, bah, c'est pas grave. Au jour le jour, je vois la vie au jour le jour avec mon cheval, et on verra où il en est. Donc là, c'était étape par étape. Donc là, il est debout. La deuxième étape, c'était qu'au niveau de son poumon, ça cicatrise, voilà, correctement, parce que ça aurait pu ne pas cicatriser, ça aurait pu se compliquer, ça aurait pu, voilà. Il n'était pas tiré d'affaire à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour le moment,
Ouais.
il y avait de l'eau dans les poumons, il y avait une plaie, c'était pas anodin. Donc, il aurait très bien pu avoir des surcomplications. Il les a pas eues, heureusement. Mais
Très bien.
voilà, donc là, il a fallu attendre le week-end pour être sûr que tout aille bien. Et le véto m'a dit donc qu'il rentre pas ce week-end, on garde encore. Et j'ai pu le ramener le mercredi d'après, quoi. Donc, il est resté 10 jours en clinique. Pu le ramener, mais pareil, il a fallu que j'attende le matin même, que le véto le voie marcher sorti du box. Bon, il allait bien parce qu'il a fait faire drapeau à une assistante vétérinaire, il est parti au trot. Ça, on me l'a dit quand je suis venue le chercher, alors qu'il n'a pas le droit de trotter.
Bah non, il
Voilà.
avait à peine le droit de marcher, je
Voilà.
pense.
Donc, avec son plâtre, il a embarqué l'assistante vétérinaire. Voilà, donc j'ai pu le ramener à la maison, voilà, quand le véto m'a dit à 9h, il m'a rappelé, vous pouvez venir le chercher. Donc quand il m'a appelé, j'étais dans ma voiture avec le vent attelé. J'ai fait plouc plouc, hop, j'arrive dans 1 heure. Voilà.
Comment ça se passe le trajet d'un cheval comme ça plâtré? Enfin,
Ouais.
comment vous avez fait?
Alors déjà, il avait un grand plâtre, hein, qui allait presque jusqu'aux jarrets. C'est énorme, hein, c'est impressionnant de voir le plâtre comme il a, c'est
Oui.
vraiment. C'est.
Surtout que
Ouais.
c'était pour une fracture de sous le boulet, quoi.
Ouais, voilà, donc c'est bon, c'est comme nous, généralement, on fait toujours une articulation au-dessus, mais il avait vraiment un gros plâtre large et haut, quoi. Et je dis, mais il va pas arriver à marcher. Puis on a réussi à l'embarquer. Donc il y a un système avec on prend une longe de 4 mètres, là, comme pour longer les chevaux, et on se met à la tête du cheval, et on prend la longe, on la fait passer derrière le postérieur pour lui, pour l'aider, pour tirer le postérieur à soulever, pour le soulever le
Ah
postérieur, pour pas qu'il ait à
oui, en
faire
fait
l'effort
tu
de trop.
tires,
Voilà.
ouais.
Pour pas faire d'effort dessus et
Tu
pour pas qu'il
soulèves
s'appuie
le
dessus.
postérieur pour le
En gros,
cheval.
on fait la béquille, c'est-à-dire pour pas qu'il se pose trop dessus, qu'il pose dessus. Donc voilà, donc sachant qu'en plus, il avait aussi en fait, il avait un pansement sur les deux postérieurs parce qu'il avait mis aussi un pad anti-fourbure sur l'autre postérieur. Donc il avait deux.
D'accord, ça existe.
Ouais. Ils avaient fait ça pour pas et franchement, ils ont bien géré, hein. Tout a été bien géré, mais on n'a pas eu de chance en fait. Mais il a eu un pad anti-fourbure pour pas qu'il compense, il fasse une fourbure de compensation des postérieurs. Et du coup, il avait des pansements aux deux pieds, quoi. Et là, donc, il y avait une longe de 4 mètres qu'on mettait derrière le plâtre et on soutenait la patte quand il devait être en appui dessus. Et donc, du coup, on l'a monté.
Oui, le principe, c'est que le cheval commence à lever la patte
Ouais.
et toi, tu emmènes le reste de
Voilà,
la
c'est
patte
ça.
avec ta longe,
C'est
quoi.
dès qu'il a soulevé la patte, tac, voilà, et on l'accompagne
On tire.
pour poser le pied, pour pas qu'il le pose trop d'un coup, pour pas qu'il glisse, etc. Parce que ben, c'est assez instable hein, quand même, le plâtre, même si ils le font plutôt bien, mais c'est quand même pas. Voilà, le plâtre, il allait jusque sous le pied, quoi. Hein,
Donc là, tu le ramènes chez toi.
ouais, je le ramène chez moi, voilà. Je le ramène à la maison, et du coup. Alors, on avait la règle qu'il fallait pas faire de demi-tour sur le pied où il fallait, donc on a dû réfléchir à comment on amenait le vent derrière l'écurie. Donc, on a dû faire une manœuvre pour amener le vent pile à la porte de l'écurie, pour qu'il fasse le demi-tour dans le
Ouais.
bon sens en descendant du vent.
Pour qu'il fasse que des virages vers la gauche.
Voilà, c'est ça. Et qui rentre, et voilà. Et là, on l'a rentré. Et bon, après, le voyage s'est super bien passé. Après, j'ai un cheval qui voyage super bien. Donc, ça s'est bien passé. Pareil, il a été attaché comme à l'aller, hein, hyper serré, serré devant. Il n'avait pas le droit de bouger et tout. Mais bon, il a bien voyagé. Et mais voilà, donc on l'a ramené à la maison. Et après, là, c'était vraiment là. Ouf, ça y est. On peut commencer les choses sérieuses. Voilà. Sachant que je ne suis pas rentrée
Ah ouais.
les mains vides de la clinique parce que j'ai eu tout un protocole ben de soins et je suis repartie avec des kilos et des kilos de médicaments. J'avais le coffre plein de produits de soins et de médicaments pour lui, pour l'aider, quoi.
T'as fait ensuite l'infirmière à domicile.
Ouais, totalement. J'étais l'infirmière à domicile à faire des piqûres en intraveineuse tous les jours, une de chaque côté, à lui donner son petit anti-inflammatoire pour l'estomac, là, qui coûte un bras. En fait, comme il était encore sous antibiothérapie par rapport à son œdème pulmonaire,
Poumon.
voilà, son poumon, donc on a dû continuer l'antibiothérapie. On a eu 2 semaines encore d'antibiothérapie. Donc, sachant que le flacon coûtait 180 € pour 3 jours, ça fait déjà une belle somme.
Donc tu lui faisais une injection d'antibio
Le
par
matin,
jour.
ouais, il avait du
Le GastroGuard, enfin le.
GastroGuard parce qu'il avait aussi de l'anti-inflammatoire. Il était sous équipalazone. Il avait équipalazone matin et soir.
Donc l'anti-inflammatoire qui en fait à terme cause des gros problèmes à l'estomac. Donc du coup pour régler les problèmes à
Oui,
l'estomac,
voilà. Donc c'est pour
le
ça qu'il était sous
GastroGuard.
GastroGuard en même temps. Voilà.
Et les bandages que vous faisiez, enfin le plâtre, vous l'avez changé tous les combien?
Alors le plâtre, il l'a gardé 8 jours. Après que je sois rentrée, donc en tout 2 semaines, pour lui enlever le plâtre, on a été obligé de le sédater parce que ben, c'est la petite scie, c'est carrément une disqueuse hein, pour disquer le plâtre. Hein. C'est
Oui.
comme pour nous, sauf que ça fait un bruit hyper aigu et là, ben, c'était trop dangereux. Le cheval, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, donc on a dû le sédater.
Vous avez essayé 100 quand même?
On a essayé ça parce qu'il était quand même cool
D'accord.
cool avec tout ce qui est bruit, mais il a
Mais
paniqué.
là, non.
Voilà. Dès qu'on a allumé la scie, on dit ah, c'est bon, on prend pas de risque, autant pour la
On
véto que pour
sédate.
le cheval. On sédate, même si moi j'avais pas envie de lui remettre encore une dose de médicaments et tout, parce que je lui dis, il en a quand même bouffé, et même la sédation, c'est des médicaments. Donc je lui dis, bon, c'est pas cool pour lui. Donc c'est pas grave, on l'a fait. On l'a sédaté, et le plâtre, et c'est là qu'on s'est rendu compte que le plâtre, en fait, il y avait 2 couches de plâtre, en fait. Il y avait une couche de plâtre et une autre couche de plâtre par-dessus. Et on a bien galéré à l'enlever. Et c'est là qu'on a vu après l'œuvre du chirurgien, les 3 petits points de suture qu'il a fait. C'était propre, c'était beau. Voilà, donc là, déjà une bonne chose parce que quand tu repars de la clinique, tu as tout un protocole et tu as une page, tous les effets secondaires qui peuvent arriver. En gros, rejet de la vis, infection de la plaie, tout, machin truc. Et ça, tu peux le voir qu'à la radio après. Donc, sachant que quand il est revenu, on a eu une radio 2 jours après pour contrôler que ben, pendant le transport, il ne soit pas fait mal. Voilà, et que tout va bien pour faire un état, genre 1.0 après le transport. Et après, il y avait une radio une semaine après pour enlever le plâtre. Donc, et si la radio était bonne, on enlevait le plâtre. Donc, déjà, on fait la radio avec le plâtre. On enlève le plâtre après.
Est-ce que
Donc là,
c'est la même clinique, c'est des vétérinaires de la même clinique qui
Ouais,
t'ont fait le
c'était le
suivi
même
ou
groupe.
pas?
Bah, c'est ma véto attitrée qui me suivait d'habitude, mais qui est dans le même groupe de clinique. Donc
D'accord.
voilà. Donc
Ça
ils
tombait bien.
communiquent aussi entre eux. C'est pratique parce
Ok.
que bah, de toute façon, les radios, elles étaient faites, mais la véto envoyait les radios au chirurgien et le chirurgien donnait après la suite du protocole à distance à
Ouais.
ce moment-là.
Il y avait une grosse discussion entre le chirurgien qui l'avait opéré et la vétérinaire qui faisait les tâches
Oui,
nécessaires,
ou
quoi.
même direct, le chirurgien passait par moi s'il fallait. Enfin, voilà,
Ok.
c'était pour savoir les choses. Mais en gros, ouais, je suis repartie avec tout le protocole, faire des prises de sang toutes les semaines bah, par rapport à son poumon, pour savoir s'il n'y avait pas d'infection, et si aussi tout remontait par rapport à sa myosite aussi. Donc voilà, donc il avait droit qu'au foin, le foin purifié exclusivement. Donc bon, ça, il était déjà. Mais voilà, avec son œdème, il
Tant
fallait pas
mieux.
qu'il ait de foin. Voilà, c'était une bonne chose. Je me suis dit que j'ai eu le nez creux de faire un purificateur à foin.
Ouais.
voilà. Ensuite,
Ouais, donc vous avez enlevé le plâtre 2 semaines après l'opération.
Ouais. Et après, il a eu ce qu'on appelle un Robert Jones. Donc, c'est du nom de la personne qui l'a inventé. C'est un système de coton très serré avec une alternance d'élastoplaste et de bande Velcro. Et ça, fois trois couches.
Donc ça permet en fait de maintenir.
Ça soutient l'articulation. En gros, c'est comme une grosse attelle, mais en plus souple qu'un plâtre. Mais c'est quand même assez
C'est
rigide.
ce qu'on pourrait appeler chez nous une résine, quoi.
Ben non, parce que le plâtre est une résine, en
Non,
fait,
ouais.
hein. Non, 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 c'est pas, c'est mou, hein. C'est une grosse poupée, hein. C'est du tissu. Mais l'alternance d'élastoplaste et de bande Velcro fait une grosse poupée. Mais c'est, et il y a une façon de le faire. Parce que moi, je m'étais dit, bon, les frais veto, ça commence à être un peu cher. Je vais demander à ma veto de me montrer comment elle fait, puis je vais le refaire. Comme ça, voilà.
Non.
Elle m'a dit, mais non, il y a une façon de le faire et il y a une
Non,
tension à
parce que si
mettre.
tu le sers trop, tu fais
Voilà.
garrot.
Et si on ne le sert pas assez, ça ne marche pas. Et il faut quand même soutenir, tenir l'articulation d'une certaine façon. Et quand j'ai vu ma veto faire, j'ai fait, ouais, ok, je ne suis pas capable. Parce qu'il y a vraiment une
Parce que
façon.
tout là, tu parles de frais vétérinaires, donc en fait, toi, tu avançais les frais vétérinaires et ton assurance te remboursait?
Alors, mon assurance a remboursé le plus gros de l'opération. En gros, l'opération, elle a coûté 6 000 euros. Juste l'opération, et puis,
Okay.
enfin, l'opération, la période en clinique. J'ai eu une facture à 6 000 euros. L'assurance m'a pris ben, jusqu'à mon plafond d'assurance. Et après, moi, j'avais le reste à ma charge. Donc, déjà, j'avais déjà explosé le plafond de mon assurance. Et ben, là, du coup,
Ok.
après, c'était pour ma
T'étais même
pomme.
pas sorti de la clinique.
Ah oui!
T'étais même pas sorti de la clinique que t'avais explosé le plafond
Voilà.
de
Bon,
l'assurance.
après, l'assurance, une fois qu'elle a la facture pour ses grosses dépenses, elle vire les sous pour qu'on règle la somme à la clinique. Mais à chaque fois que
Ok.
la veto venait, c'était des factures entre 300 et 400 euros.
C'était pour toi.
Voilà. Et ben, c'était
Et
pour
pour
moi.
toi, tu le savais parce qu'en fait, tu avais déjà atteint
Ah oui,
ton
je le
plafond
savais, voilà.
d'assurance.
Et puis, voilà.
Voilà.
Il n'y a aucune assurance qui couvre de manière illimitée tout ça comme ça. C'est pas possible. Donc là, on sait que voilà, bon, déjà l'assurance avait aidé, mais après il fallait assumer derrière la visite. Donc toutes les 3 semaines changer le Robert Jones, toutes les 3 semaines radio, et plus les prises de sang quand il avait encore les prises de sang, plus tous les à côté, les médicaments et tout. Donc ouais, bah, ça chiffre vite, ça monte vite.
Ça c'est le coût financier, mais plus le fait que tu passais matin et soir pour lui donner les médicaments, pour surveiller comment il allait, etc. Il y a un gros coût physique pour toi aussi.
Ouais, voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est, il y a un gros
Ouais.
coût, voilà, il y a un gros coût de gestion.
Combien de temps ça a duré? Combien de temps ça a duré et enfin jusqu'à ce que vous vous disiez, ok, là c'est bon, il va bien.
Je crois que ça a été. Je me suis jamais permis de désespérer, en fait. Dès l'instant où il est revenu à la maison, et puis le vétérinaire était tellement en mode, on vous dira au prochain rendez-vous ce qu'il en est. Voilà, c'était ça. C'était vraiment, j'ai jamais espéré, parce que même à un moment donné, en fait, après l'opération, on voyait plus le trait de fracture. Et 3 semaines après avoir enlevé le plâtre, le trait de fracture est réapparu. Genre en mode, on voyait que ça, quoi. Et moi, j'ai dit, ma veto, on le voit là, le trait de fracture, comment ça se fait? On le voyait pas avant. Il dit, non, non, c'est normal, c'est dans la période d'ossification, de calcification et tout va bien. Et sauf que bah, Tinka, ce jour-là, je savais qu'il avait fait le con dans le box, il s'était pointé et tout ça, il avait paniqué. Et je me dis, merde, il y a une connerie qui s'est passée. Et le chirurgien, quand il a reçu les radios, m'a appelé 2 jours après en me disant, ça va pas, la fracture a bougé, votre cheval, ça va pas, voilà. Et je lui dis, merde, ça va pas. Donc ma veto, bon, m'a dit, ça peut pas. Donc là, ça a été gros doute, gros, gros doute. On s'est dit, merde, il y a un truc qui a merdé. Là, ça fait pchit dans mon cerveau. Et avec mon chéri, on a dit, ben, on le met en pension. On ne veut pas avoir à gérer, on va le mettre en pension, où il y aura d'autres chevaux, où il sera avec d'autres, il ne va pas paniquer. Et on a dit, là, on arrête les conneries, on
On
bouge.
bouge.
Donc, on l'a bougé, on l'a mis dans le vent, on l'a bougé à 4 km de la maison. Et on l'a mis en pension. J'ai racheté des tapis épais parce qu'il devait être sur tapis. Donc j'ai racheté des tapis pour qu'il soit pour sa fracture bien épais. Voilà, donc livré. Ça c'était bien, c'était livré rapidement. Hein, ça venait de Hollande pourtant. Donc et on a attendu de pouvoir aménager son box dans l'autre pension. Et genre 10 jours après, il a bougé. Et après, on avait bien calé la chose pour que 2 jours après le déplacement, il y ait le contrôle radio pour voir si le transport avait fait quelque chose ou pas. Et voilà.
Parce que là, en fait, vous l'avez bougé parce que vous étiez à bout, en fait, physiquement.
Ouais, moi, moralement, je bossais ouais. En plus pendant mes vacances. Enfin, je bossais des masses pour pouvoir payer.
Là, t'avais besoin d'aide.
J'ai vendu quasiment toutes mes affaires de concours, hein. Enfin tout, j'ai tout vendu, hein. Et je remercierai jamais assez les gens qui m'ont tout acheté parce que j'ai vidé quasiment toute la sellerie de Tinkas, hein. J'ai vendu tout. J'étais même à 2 doigts de vendre ma selle, mais sentimentalement c'était dur de me dire je vends ma selle, c'est dur. Donc j'attends, mais j'ai tout vendu pour pouvoir payer ces frais veto parce que je lui dis là, va falloir. À coup de 3 semaines, toutes les 3 semaines, lâcher 300 euros de veto, ça fait un budget. Et voilà, donc je bossais en plus à côté, je faisais plein de trucs de la débrouille, et j'ai tout vendu de ce que j'avais de Tinkas qui ne me servait pas. Et je me dis, c'est pas grave, je les rachèterai plus tard.
Mais là,
si t'avais... voilà.
Ouais, mais là, t'avais besoin en fait de quelqu'un qui pouvait t'aider peut-être à gérer.
Voilà. Et j'avais aussi besoin
une prise anti-inflammatoire
de...
ou.
Ouais, non, mais j'avais aussi besoin de moi souffler et de penser à autre chose qu'à mon cheval à le soigner. C'est-à-dire que ça me pesait, ça nous pesait aussi à mon conjoint parce que on pouvait pas partir en vacances. Je pouvais pas dire. Voilà, on commençait à se dire en juillet, on va se faire une semaine. Je dis mais.
C'était à peu près en quelle période? Parce que du coup, il s'est blessé, donc t'as dit mi-mars.
Là, c'était fin avril, début mai. Donc, c'était à peu près à un mois après. Et donc, du coup, je dis oui, mais on part en juillet. Donc, techniquement, selon le protocole, en juillet, le cheval avait l'autorisation de sortir gentiment. Voilà, mais je dis, mais il va falloir faire des soins, etc. Et je dis, je vais pas trouver quelqu'un qui va pouvoir venir passer 3 fois par semaine si le cheval va bien, faire des soins, etc. Lui faire les bandes comme il faut, s'il faut faire des bandes. Ça juste de me projeter comme ça m'angoissait. Et c'est mon chéri qui a pris la décision de partir, parce que moi, je sais pas si je l'aurais prise. Et il a dit, on part. Et c'est la meilleure décision qu'on ait prise, en fait, au final. Parce que moi, j'ai pu me reposer sur quelqu'un qui pensait cheval, qui faisait passer le bien-être des chevaux avant tout, et qui m'a dit « t'inquiète pas, ton cheval, ça va aller », qui l'a mis avec des copains, et, qui lui donnait 2 fois sa ration de foin s'il fallait, enfin, voilà, quoi, qu'il y avait...
Il y avait quelqu'un à qui déléguer une partie des tâches.
Voilà, pouvait surveiller, sachant que, bon, en plus, là, ça s'allégeait. Il n'y avait plus l'antibiothérapie, il n'y avait plus trop d'anti-inflammatoires, il n'y avait plus tout ça, donc c'était plus facile.
D'accord.
À gérer.
Et la surveillance.
Voilà, c'est la surveillance, c'est de se dire, il va bien, et est-ce qu'il va pas paniquer dans son box, voilà, là, c'est... Et puis, il était avec plus de chevaux, parce que nous, on n'avait pas beaucoup de chevaux là où on était. Et le fait qu'il soit avec plusieurs chevaux en mode troupeau, bah, c'était important pour lui, je pense aussi, parce qu'il en avait aussi besoin pour son moral.
Il était toujours seul dans son box.
Il était dans son box, mais on faisait toujours en sorte qu'il ait un copain dans son box ou dans un paddock à côté. Mais il y a des fois, ça lui allait pas. Et du coup, un jour, il a paniqué. Et on peut pas lui en vouloir. Il a eu sa réaction de cheval. Mais là, j'ai eu peur qu'on pète tout ce qu'on a fait. Et je dis non. Et on a dit...
Ouais, donc dans la nouvelle pension, il avait toujours quelqu'un dans le box d'à côté.
Ouais, c'était un peu le protocole qu'on avait un peu fixé. Mais après, c'était pas forcément facile à gérer non plus pour les autres chevaux non plus. On arrivait au beau jour, les autres chevaux, il fallait qu'ils sortent aussi, donc c'était compliqué, quoi.
Dans la nouvelle pension où t'es allée, enfin dans la pension où t'es allée, ça, ils pouvaient t'assurer que ton cheval, il avait toujours quelqu'un dans le box.
Voilà, c'est ça. Ils étaient prêts, ils pouvaient sentir les copains, ils pouvaient les voir. Enfin, voilà, en plus, il a été mis sur la cour de l'écurie, donc il voyait toute l'animation de l'écurie.
C'est ça.
Donc il avait un peu une télévision, il avait besoin un peu de distraction, parce que c'est clair que ben là, ça faisait, on était à un mois de boxe. Et il a été super sympa quand même. Moi, je trouve que j'ai eu un cheval super sympa au box parce qu'il m'a pas fait de colique, il a pas fait de tic. Enfin, il aurait pu faire plein de choses. Hein. Il a rien fait de tout ça. Il a vraiment, il a un mental d'acier. C'est un truc de dingue parce que il s'est vraiment accroché et il a pris son mal en patience vraiment. Mais le fait de l'avoir remis aussi avec d'autres chevaux dans une plus grosse écurie, ça lui a fait du bien au moral et je pense que ça l'a aidé aussi dans sa convalescence. Donc c'est pour ça que je me dis, c'était bien.
Et comment s'est passé le moment où vous l'avez remis dehors?
Oh, mais
tu l'as c'était... remis dehors. Je sais qu'à un moment donné, il est sorti
si
du box. Donc quand est-ce que vous avez pris la décision de le sortir de son box ferme?
Quand
à quelle
le
date
me l'a dit.
Comment... Ouais, mais du coup, c'était à peu près quand?
C'était en juin. C'est-à-dire qu'il a fait 3 mois de boxe strict. 3 mois pleins. Ça a été quand il n'a plus besoin de Robert Jones. C'est-à-dire quand le chirurgien a estimé que c'était assez consolidé pour lui, pour qu'il n'ait plus besoin de
C'est
Robert
ça.
Jones.
Et donc là, vous l'avez ressorti.
Alors, attention, c'est sous condition. C'était, fallait le
D'accord.
ressortir. Il fallait le ressortir en mode, il faut qu'il ait un double bandage, c'est-à-dire un coton américain, donc pas un flanel, un coton américain, une bande, un autre coton américain, une bande sur le
D'accord.
postérieur fracturé, pour surtout pas qu'il se fasse mal. Et ça, il devait l'avoir H24, en fait, jour et nuit. Selon le veto m'a dit, vous le sédatez, vous lui mettez un mort, et puis si vous pouvez presque l'entraver, c'était presque ça des fois. Donc je dis, non, alors là par contre, non, je ne vais pas le sédater encore. Un mort, on va voir. J'avais un Licol à chaîne. Je lui dis, on va faire ça et on va voir comment il réagit. Je dis, on verra. Mais mon cheval, je savais que ce n'était pas du genre à péter en l'air comme les antilopes qu'on enferme dans un box. Donc je dis, on va voir. Parce que les fois où je l'avais sorti, manipulé pour le monter dans le vent, il avait été super cool, quoi. Donc je me dis, bon. Mais le veto, lui, c'était en mode ceinture bretelle. Mais après, c'était son avis parce que lui, il fallait pas péter son travail d'avant, donc c'est normal. Parce que, voilà, il me dit oui, lui, il va croire qu'il est guéri, donc il va se sentir bien, il va sauter en l'air et il peut tout recasser. Donc j'avais une
Ton
grosse pression quand même.
veto n'aurait pas été un bon veto s'il t'avait dit allez-y, YOLO, remettez-le directement en troupeau dans
Non.
5 hectares, quoi.
Voilà. C'est pour ça que je lui en veux pas parce que lui, il est en mode, il protège son boulot et il a
Bah
raison.
oui.
Et je dis bon, je l'écoute, mais que à moitié. Je dis je vais voir. Après, il y a le côté humain, c'est-à-dire que lui, il est dans la théorie, quoi. C'est sur le papier, c'est comme ci, comme ça. Il voit pas les chevaux au quotidien, et voilà. Pour lui, c'est il voit le plan médical. Et après, bon, moi, je l'ai sorti. Donc au début, c'était vous avez le droit de le sortir 10 minutes broutées. Ah bon, ben, 10 minutes, ça va vite, hein. Quand tu le fais une fois, deux fois, tu te dis bon, voilà. Et après, ben, au fur et à mesure, j'ai rallongé progressivement. Mais là, déjà, c'était un soulagement de me dire ça y est, mon cheval, il marche normalement. Il peut aller brouter, il était trop content d'aller brouter, quoi. Mais au début, on avait vraiment l'impression que il me regardait, genre, ça y est, j'ai le droit de brouter, quoi. Il hésitait à brouter, c'était vraiment très curieux parce que il était
Trop
là,
mignon.
voilà. Ah ouais, c'était genre, il redécouvrait, il avait l'œil qui s'est. Le jour où je l'ai sorti, ouais, il a l'œil qui s'est remis à pétiller. J'ai revu les petites étoiles dans ses yeux, et je me suis dit, ah, ça y est, mon cheval est un cheval. C'était pas un cheval dans son box, c'était un objet à soigner, mais c'était pas un cheval, il était pas cheval. Là, il est cheval, il regarde des copains à côté dans le pré, il voit les vaches, il sent les odeurs, il sent l'air sur lui, enfin, c'est pas pareil, quoi. Je fais, oui, c'est vrai, 3 mois enfermé, et là, voilà. Moi, je venais matin et soir, à l'écurie quand même, pour le sortir, pour faire brouter, pour qu'il, psychologiquement, pour moi, qu'il ait sa dose de sortie, quoi. Et ça a duré bien 2 mois, hein, de faire comme ça, sortir au pas. Donc ça a été très long.
C'est long, 2 mois à faire juste quelques minutes de broute-broute, quelques
Hein.
dizaines de
Ouais.
minutes de broute-broute et on rentre.
Bon, à la fin, ça a été plus que 10 minutes, hein, c'était des heures. Je passais l'après-midi à le faire brouter quand je partais du principe qu'il était calme, il était calme. Hein, voilà. Je mettais toujours une sécurité au niveau du licol, mais.
Et aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, donc là, on enregistre fin octobre 2023, donc ça fait plus d'un an et demi qu'il a eu son accident. Et aujourd'hui, vous en êtes où?
Ben aujourd'hui, c'est redevenu le cheval d'avant. C'est ça qui est incroyable. Et enfin, pas plus tard que ce week-end, quand je l'ai monté, je l'ai ressenti me remettre défoulé avec son dos et se tendre. Que je me suis même fait le plaisir d'aller sauter des obstacles dans la carrière qu'il y avait en me disant, allez, je les saute, j'y vais. Et que c'est comme avant, quoi. Il a toujours cette envie d'y aller. Je l'ai retrouvé comme avant. Alors. Moi, je suis plus pareil qu'avant. C'est ça le problème, c'est que lui, je le sens, qu'il a envie d'aller sauter quand il voit les barres dans la carrière. On y va, il y va, quoi. Mais moi, j'ai changé. En fait, c'est ça le problème, c'est que moi, je sais plus ce que je veux par rapport à tout ça. J'ai aussi peur qu'il se reblesse, en fait. Ça a été un gros traumatisme, c'est-à-dire que je vais peut-être reprendre les concours parce qu'on peut reprendre les concours. On a repris les concours.
Vous avez l'autorisation de reprendre. Voilà, vous avez l'autorisation de reprendre le saut et tout.
Voilà, on a repris. Franchement, même le veto, il m'a dit vous pouvez y aller, c'est bon, c'est comme avant, pas de souci. Il vous pouvez même reprendre le complet. Là, je dis non, on fera pas de complet.
Non.
Je veux pas le casser sur un complet. C'est mort. Ben voilà, je veux plus. Pourtant, voilà, on adorait ça, mais c'est mort. Je veux pas.
Et pourtant. Ton accident, c'est pas passé sur un complet.
Non, mais je peux pas. Je peux pas parce que des fois, on se dit peut-être que c'est un coup de fatigue. On sait pas parce que voilà, il y a plein de choses.
Et puis
on
toi, t'as associé.
Voilà, moi, j'ai culpabilisé à mort. Je dis ça y est, on a fait le tour. Même si je me suis arrêtée même pas au numéro 5 du cross, je suis dit bah non, en fait. Non, je dis j'ai culpabilisé. Peut-être que j'ai trop tiré sur le cheval. Peut-être qu'en fait il n'était pas bien toute la semaine et je l'ai pas vu. C'est vraiment ça. C'est sur le coup quand il s'est fracturé, je me suis vraiment dit il y a un truc que j'ai pas vu et c'est fait ça quoi. Et non. Et maintenant on peut reprendre les concours, mais en fait j'ai reproché longtemps à mon chirurgien d'y aller trop doucement dans le protocole. Mais maintenant que j'ai plus de protocole, c'est moi qui y vais doucement en fait. C'est moi qui dis bah on a le temps. On y va. On a fait des prépas, machin. Là, j'aurais pu reprendre ma licence amateur et refaire les concours en amateur, mais je dis ben non, en fait, je vais pas faire d'amateur. Je vais faire d'abord du club, comme quand je l'ai eu au début. On va refaire comme au début, comme si c'était, je venais de l'acheter, et on va refaire. Et on verra jusqu'où on va et si on continue, si on continue pas, c'est lui qui me le dira. Mais moi, j'ai plus la même. C'est pas la sensation, mais c'est vraiment. C'est comme si. Ouais, il y a un côté me dire. Et si, dans le virage, là, il se fauche et il se répète sur l'autre. Voilà. C'est ça qui me fait peur. Et on a refait un check-up là, fin août, pour savoir comment il allait sur son postérieur, avec un examen locomoteur. Et ce qui est sorti, c'est qu'il était boiteux à gauche, mais pas à droite du postérieur. Du coup, on a fait des radios à gauche. Et là, on a vu un début d'arthrose à gauche. Et du coup, le veto m'a montré la radio en me disant là, vous voyez, un début d'arthrose au postérieur gauche. Et il y a un petit sillon qui commence à se former parce que, pareil, au niveau du boulet, de la P1, il y a un petit sillon qui se forme au niveau. Voilà. Et ce sillon-là peut faire le même début de fracture que ce qu'il a eu à droite. Et alors là, quand on m'a mis ça, on m'a dit ça fin août, j'ai dit non, je repars pas là-dedans. J'ai dit non, et j'ai dit c'est mort. Alors je vais refaire tous les soins pour que l'arthrose soit le mieux gérée possible, sachant que c'est qu'un début. Ah ouais. Mais voilà. Mais je le monte plus pareil qu'avant. Je prends plus le temps, je le masse beaucoup plus. Je me suis rendu compte de tous les soins annexes que je pouvais lui offrir. Je l'ai fait alors qu'avant. Je lui en faisais plein des soins avant, mais là je lui en fais encore plus quoi. Il a un massage avant que je le monte, un massage après que je l'ai monté, et je vois que ça paye parce que physiquement il est beaucoup mieux, plus souple, plus disponible, et je lui dis ça lui fait du bien. Et j'apprends à l'observer, à voir où est-ce qu'il a mal, où est-ce qu'il a des tensions, parce que forcément s'il a mal à un postérieur, il va compenser sur l'autre, et puis il va avoir mal au dos après derrière, et ainsi de suite. Donc tout est lié.
Est-ce qu'on peut dire que du coup, tu as appris à observer ton cheval pendant qu'il était malade ?
Oui, ouais, totalement. Je l'observais déjà beaucoup, mais j'ai plus appris à le lire, en fait. Je l'observais, mais des fois, je voyais des choses, mais je ne savais pas les décrypter. Tandis que là, maintenant, là, par exemple, je suis capable de voir comment mon cheval a des tensions dans le dos parce que maintenant, il vit dehors et le froid du vent lui a contracté le dos. Mais ça, je ne le voyais pas, ce genre
arrive
de choses.
Arrive à faire alors. Des liens.
Voilà, là je me dis, il est contracté à ce niveau-là, oui, il s'est contracté dans le dos, c'est froid, voilà. Alors qu'avant, je ne le massais pas parce que je ne savais pas où le masser, et puis c'est pas un cheval très tactile qui va tirer la lèvre supérieure quand on le gratte, donc on ne va pas savoir où est son point G. Il est difficile à décoder pour ça.
Qu'est-ce qui t'a fait apprendre tout ça ? Est-ce que c'est vraiment l'observation de ton cheval, ou est-ce que tu t'en as profité d'avoir ce temps pour te former ou des choses comme ça?
Alors, à travers mon blog, grâce à mon blog, j'ai eu des occasions où j'ai pu un peu m'initier. Par exemple, j'avais fait des stages d'initiation au shiatsu où on nous apprend des petites techniques de toucher, de décontraction pour sentir des choses. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans le shiatsu pur, mais on est dans le bien-être du cheval. Ça, je l'avais vu sur d'autres chevaux. J'avais pas amené mon cheval sur ce stage-là. Et bon, j'avais essayé de le retransposer. Mais comme mon cheval n'était pas forcément réceptif, je me suis dit, bon, je sais pas faire. Je me suis dit, c'est pas grave. Et ça, je l'ai repris. Ce que j'avais appris, je l'ai repris sur lui. Et je lui ai dit, je vais vraiment y aller, mais je vais insister. Je vais le faire plusieurs jours et je vais voir si ça marche. Et ça s'est fait genre au bout d'une semaine où là le cheval, au moment où je pose mes mains sur lui, commence à avoir les yeux qui s'alourdissent, la mâchoire qui se décontracte. Et là, je dis, ah, ça y est, en fait, j'y arrive maintenant. Parce qu'en fait, avant, j'avais pas persévéré en me disant, mon cheval n'est pas réceptif, je peux pas, voilà, je sais pas faire, vaut mieux que je laisse les autres faire.
Mais là, t'avais rien d'autre à faire que de persévérer.
Voilà, il n'y avait rien d'autre à faire et donc je l'ai fait, je l'ai massé et j'ai continué parce que je dis ben au moins ça, au pire ça fera pas de mal et au pire je me dis je fais pénétrer l'arnica comme et ça lui fera pas de mal, c'est ce que je m'étais dit. Au pire je fais pénétrer et au final ça a marché et maintenant ouais je le masse et j'arrive à savoir comment le masser et lui aussi il se laisse plus facilement masser, c'est-à-dire que par exemple des fois genre quand je le massais au grasset c'était impossible de lui toucher le grasset sans qu'il essaye de me latter alors que c'est pas un cheval qui latte, mais je pense qu'il était tellement sensible et douloureux sur le grasset au postérieur gauche qu'il a compensé à fond avec son opération et maintenant là j'arrive à lui masser mais genre vas-y il me regarde et vas-y c'est open bar. Il limite même, il me donne même sa hanche pour que j'arrive à bien aller bien loin, quoi. Donc voilà, c'est, j'ai appris sur le tas un peu, j'ai observé, j'ai regardé un peu des vidéos comment on fait, et puis je me dis, bah, de toute façon, faut le sentir aussi. C'est des choses, je vais sentir quand il y a une tension. Là, ça rebondit pas. Là, c'est tout dur. Ça devrait pas être dur parce que là, il y a un muscle. Bon, ben, on va y aller. On regarde par rapport à l'autre côté. Oui, l'autre côté, c'est un peu plus souple. Bon, ben. Faut que ce soit pareil. Et après, on arrive à voir. Mais voilà.
Donc toi t'as changé pendant cette année et demie-là.
Ouais, moi, j'ai changé. J'ai vraiment changé. Et même si, voilà, c'est, si je me dis, je fais plus de concours, c'est pas grave. Enfin, c'est. Je me rends compte que j'ai la chance d'avoir mon cheval tous les jours, de pouvoir aller le voir tous les jours, pouvoir le monter tous les jours, pouvoir faire des longues balades comme je faisais avant tous les jours. Enfin. Je peux faire tout comme avant. Donc, si on fait pas de concours, si on fait pas des grosses épreuves comme on faisait avant, des grosses épreuves, c'est pas grave parce qu'en fait, c'était pas le plus important. Voilà, il y aura d'autres occasions pour le faire ou peut-être pas, ou peut-être que je vais plus le faire jamais, je sais pas. J'ai changé parce que ce qui est important, c'est de savoir que je monte un cheval qui va bien. C'est surtout ça. Je veux pas monter un cheval en me disant il va mal. Là, quand j'ai appris qu'il avait un peu d'arthrose, je me dis, ben non, c'est. Je vais pas être dans le déni en me disant, il a de l'arthrose, je lui donne des compléments, puis basta, et puis il continue son sport. Non, c'est. Il y a des compléments. Maintenant, je vais le regarder trotter. Je vais encore plus le regarder trotter qu'avant. C'est-à-dire que, ben voilà, maintenant, je le faisais déjà avant, mais maintenant, je le fais encore plus pour vérifier comment il est dans sa locomotion, c'est de le longer, en fait. Je travaillais à pied, je le regardais se déplacer en liberté, parce que pour le plaisir des yeux. Mais là maintenant, je regarde comment il pose ses pieds, si voilà, s'il est en talon, s'il est en pince, s'il pose plus à droite qu'à gauche. Enfin, et je suis dans cette analyse, mais je me tords le cerveau, hein. Je suis comme ça et je me dis là, ça va, c'est bon, c'est bon. Et du coup, quand je l'ai longé le lundi, je sais que la semaine, je peux le monter et le travailler et tout va bien. Voilà. En gros, c'est ma petite routine que je me suis faite parce que j'ai besoin de me rassurer.
C'est une histoire qui se finit très bien quand même.
Oui, ouais,
C'est
non,
une
mais
histoire qui se finit avec un cheval et une humaine qui sont contents d'être ensemble, quoi.
oui, c'était vraiment le plus important, c'est lui et moi. Et d'un côté, je me dis, il s'est vraiment battu pour moi jusqu'au bout parce que, enfin, c'est ce que m'avaient dit les vétos quand j'étais venue le chercher. Je suis tombée sur la véto qui avait passé la nuit avec lui et qui m'a dit, vous savez, votre cheval, c'est un super cheval. Et je lui dis, mais pourquoi? Mais il me dit, j'ai jamais vu des chevaux aussi forts mentalement. Il me dit, il n'y avait rien qui allait pour lui. Il s'est battu et elle m'a dit, je pense qu'il s'est battu pour vous, quoi. Elle m'a dit, quand on vous voit avec lui et comment il est avec vous, il savait ce qu'il attendait après. Elle m'a dit, votre cheval, les chevaux, ils le savent, elle m'a dit. Et c'est vrai que ça m'a touché quand elle m'a dit ça. Je lui ai dit, wow, ça veut dire qu'en fait, la relation que j'ai avec mon cheval, c'est la relation que tout le monde rêve. Mais je m'en étais pas forcément rendu compte avant ça. C'est ça qui est con, c'est que en fait, il a fallu qu'il y ait un accident pour que je me rende compte que ouais, avec mon cheval, on est comme les deux points liés, quoi. Autant lui que moi. C'est-à-dire que moi, je suis attachée à lui, mais lui est attaché à moi. Enfin, j'en suis persuadée, quoi. C'est un truc de
C'est super fort ce que tu dis en fait.
dingue.
On avait une super relation, on avait le lien, mais juste il a fallu un accident pour que je m'en rende compte.
Bah ouais, voilà. C'est. En fait, ce que je dis maintenant, c'est. L'accident, c'est un mal pour un bien. En fait, l'accident m'a permis de changer des choses dans la vie de mon cheval. C'est-à-dire que maintenant, mon cheval, il vit en troupeau, dans un pré, chose qu'il n'avait pas connue avant. Et je voulais pas parce que j'avais peur qu'il se blesse. J'avais vraiment peur. Je dis non, mon cheval, voilà, parce que j'avais été traumatisée, le cheval d'une copine qu'on avait dû euthanasier parce qu'il avait pris un mauvais coup, un accident de pré. Et je dis non, moi je veux pas, j'aurais trop peur de le perdre. Mais là, en fait, j'ai failli le perdre. Donc ça m'a un peu. Je sais ce que ça fait. Donc en gros, je suis prête, même si je veux que ça arrive le plus tard possible. Mais quand je l'ai remis au pré sans l'accord du chirurgien, hein, parce que, voilà, selon le chirurgien, je suis encore censée. Il est encore censé dormir au box, etc. Mais là, j'ai dit, hein, le printemps arrive, le cheval, il va dehors, c'est comme ça. Donc, on l'a fait progressivement, en petit paddock, avec un copain d'abord pour qu'il soit calme et qu'il fasse pas le fou à appeler les copains. Et après, on l'a mis progressivement en troupeau. Au début, je l'ai mis plein de protections partout. J'avais trop peur quand même. Je le surveillais pendant 1 heure. Mais j'ai dit, c'est vraiment ce qu'il faut parce que, je dis, s'il se fait mal, il se fait mal au pré, ben, il se fait mal dans son élément, en gros, c'est le destin qui aura voulu. J'ai un peu remis ça au destin. Je dis, voilà, ben, s'il se fait mal, s'il doit se faire mal, il se fera mal.
Et il se
Mais
fera mal en étant cheval.
voilà, je veux pas l'empêcher, me dire, je vais le garder dans une vitrine, un box, le sortir dans un paddock tout seul, et pas vivre sa vie de cheval comme il veut, et être une petite voiture qu'on expose. Non, je voulais pas de ça. Et j'ai dit, moi, je veux vraiment qu'il vive sa vie de cheval. Je lui ai promis. Et j'ai vraiment tenu à tenir cette promesse parce que pour moi, lui, il l'avait tenu pour moi d'être encore là. Et je lui dis, je lui dois encore ça. Et quand en avril, vraiment, c'est vraiment quand j'ai pu le remettre au pré avec les copains, j'étais vraiment contente. Et de le voir avec les copains, voilà, c'est cool, quoi. Il est serein, il est bien. Il m'appelle pas à la porte. Quand j'arrive, c'est Oh, t'es là. Bon, bah viens, on y va.
Okay,
C'est pas le
bien.
cheval qui court à la porte pour venir me voir, mais c'est pas le cheval qui refuse de venir travailler avec moi non plus. Donc je sais bien. Voilà.
Vous avez rééquilibré le peu qui restait à équilibrer, quoi.
Ouais, mais en plus, au début, je voulais faire progressivement. Je dis, on va le mettre au pré. D'abord le jour et la nuit, il dort au box. Bah, ça a duré 2 jours, hein, parce que, en fait, la gérante, elle n'arrivait plus à le rattraper au bout du 2e jour. Il était en orbite dans les 6 hectares de pré, il voulait pas se laisser attraper. Donc la gérante m'a dit, bah, demain c'est toi qui le ramènes, parce que si tu veux qu'il dorme au box, moi je le fais plus. Elle a passé 1 heure à essayer de l'attraper la dernière fois, donc je lui ai dit, bah, non, ok, bon, mais
Ouais.
j'y vais. J'y vais, je vais le faire, c'est pas grave, pendant mes vacances, je le fais, puis après on verra, peut-être qu'il passera H24 au pré. Et sauf que moi j'ai réussi à l'attraper, il n'y a pas eu de problème, parce que il m'avait pas associé encore au fait de rentrer au box, voilà. Mais quand il a compris qu'il rentrait au box, j'ai mis 20 minutes à le ramener jusqu'au box, qui est à 500 mètres. Je le traînais, je lui dis, non, mais ça va pas le faire tous les soirs, ça, en fait. J'ai pensé à la gérante, et j'ai la gérante, il a mis 1 heure à l'attraper, 20 minutes à le ramener. Je lui dis, c'est pas rentable l'affaire pour elle, la pauvre. Donc, j'ai dit, c'est bon, je l'ai ramené au box, et j'ai dit à la gérante, je lui dis, bah, demain tu peux curer son box, il dort dehors. Mais voilà,
Ouais.
donc depuis le mois d'avril, il dort dehors et ouais, c'est le plus heureux des chevaux, quoi. Donc je suis vraiment contente de pouvoir lui offrir ça dans ces conditions-là, de le voir avec des copains chevaux. Et même si moi, j'ai dû faire des concessions parce que c'est moins pratique.
Pour conclure ton témoignage, si tu avais un message ou un conseil à donner aux auditrices de ce podcast à la suite de ton épisode, lequel ce serait?
C'est d'apprendre à relativiser sur ce qu'on fait avec son cheval. C'est bah, ce que je disais, on ne sera pas tous des champions du monde. Le principal, c'est de prendre du plaisir à son niveau, qu'on fasse des petites épreuves, qu'on fasse pas de concours ou qu'on fasse des grosses épreuves. Mais voilà, il y a déjà ça. Mais il y a aussi, surtout, quand on est propriétaire, c'est mettre un peu de distance. Et ça, c'est un gros truc que j'ai fait aussi pendant sa convalescence, c'est de mettre la distance. Parce que ça m'a, voilà, ça m'a un peu bouffé. À un moment donné, moi, c'était devenu une obsession, quoi, que mon cheval, le bien-être de mon cheval, c'était devenu obsessionnel. Je pouvais pas. Je me dis, est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il a assez il a assez de foin? Est-ce que j'ai pas oublié de faire ci ou ça? Tout était une source de stress. C'était vraiment terrible. En fait, l'accident m'a fait relativiser en me disant, ben oui, il y a encore plus grave qui peut arriver. Et au final, lui, il est toujours là. Et il a supporté des conditions qui sont pas catholiques pour un cheval, mais il les a supportées. Et moi aussi, il faut que je sois bien pour qu'il soit bien. En fait, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que tant que moi j'étais pas bien, lui il était pas bien non plus. Et c'est vraiment ça, quoi. Voilà. Donc j'ai appris à mettre de la distance, j'ai délégué aussi beaucoup, et maintenant je délègue, c'est-à-dire que des fois je m'accorde un jour où je vais pas le voir. Ça, c'était très dur au début, hein. De me dire, je vais pas voir mon cheval pendant un jour et c'est la gérante des écuries qui s'en occupe, qui le sort, qui le monte, qui. Voilà. Mais c'est mon jour off, en fait. Et ça, je l'avais jamais fait. Et c'est dur, hein, à part quand on est en vacances, mais c'est dur. Mais c'est important parce qu'on a aussi besoin de vivre notre vie d'humain pour pas ramener nos soucis aux chevaux, et ils ont pas à supporter ça. Le problème, c'est que Tinka, c'était vraiment devenu mon obsession, quoi. Il fallait qu'il ait fait tout ce qu'il faut, quoi. Et s'il n'avait pas tout ce qu'il faut comme je le voulais, ça allait pas. Donc voilà, c'est. Donc même si
Oui, des fois,
rien ne peut être
ils ont leur
parfait,
résilience.
ouais, voilà, ils ont leur seuil de tolérance. Dans sa convalescence, il a su me montrer où étaient ses limites, où jusqu'où il pouvait aller. Donc voilà, et maintenant je sais que il a de la force, il peut supporter des choses qui sont approximatives par moment, et la perfection, c'est pas obligatoire tout le temps. C'est ça, quoi. C'est que moi je voulais que tout soit tout le temps parfait, quoi. À la limite, il avait le foin au gramme près, il avait tout au millimètre, hein. Je regardais les températures pour les couvertures, enfin voilà, c'était tout le temps ça. Là maintenant, bah, il pleut, mon cheval il est dehors, il n'a pas de couverture, c'est pas grave. Il vit bien.
Il sait
Voilà.
s'adapter.
Voilà, il s'adapte. Il me l'a montré qu'il savait s'adapter. Voilà, la preuve, c'est que quand je l'ai laissé au pré-H24, moi sur le coup, je m'étais dit, je vais le rentrer la nuit parce qu'il n'est pas habitué, le pauvre, à dormir dehors. Bah, la
Bah oui,
première nuit,
le
il
pauvre
était à l'aise.
chou.
Hein. Bah oui, pauvre chou. Mais au
Bah
final,
oui, puis la troisième nuit, t'as pas réussi à le rentrer, quoi.
voilà, c'est ça. Donc, au final, c'est lui qui m'a un peu dit, oh, stop, lâche-moi. Je m'en fiche de ta pension 5 étoiles. Moi, je préfère ma pension 5 points boue, quoi. Voilà.
Ça.
Donc, voilà, c'est tout. Et j'ai relativisé. Je me dis, bah, il est heureux. C'est ce qui compte. Il va bien, il marche, il trotte, il galope, il saute. Il a encore envie que je le monte. Bah, très bien. Tout va bien. Voilà. Donc, c'est apprendre à mettre de la distance et que, voilà, on donne tellement à nos chevaux et on a envie que tout soit parfait, mais on peut pas trouver la perfection dans les chevaux. Et ça, je m'en suis rendu compte, on peut pas. Et même moi, je peux pas le faire. Voilà. Même si j'avais les moyens d'avoir la maison de rêve de Barbie avec l'écurie de Barbie, le camion de Barbie, ce sera pas parfait.
Non,
Ça, je
pas
dis,
jamais
voilà,
parfait.
c'est. Voilà, donc c'est vraiment cette chose-là que j'ai appris à accepter, parce que pour moi, il fallait que tout soit parfait. Et je me suis mis une pression monstrueuse, ça m'a pourri la vie. Et là maintenant, j'ai dit, je ne me pourris plus la vie pour ça. C'est pas grave. Si un soir, je ne peux pas passer le voir, c'est pas grave.
Tu as
Ce sera
totalement raison,
autrement.
c'est
Voilà.
quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le milieu du bien-être équin, que il faut que tout soit parfait. Et en fait,
Ouais.
la vie n'est pas parfaite. Enfin, c'est pas possible d'être parfait.
Non, on peut pas être parfait. Nous, on n'a pas une alimentation à 100% parfaite, hein.
Non.
Voilà, alors
Et on vit bien?
on vit bien et on se casse la tête à faire des rations avec des nutritionnistes. Alors c'est bien, hein, c'est génial. Mais est-ce qu'on en fait autant pour nous? Je suis pas sûre.
Non.
Donc faut trouver le point d'équilibre aussi, parce que voilà, il y a aussi de ça. C'est vraiment le cheval s'adapte. Ils ont été transformés aussi par les conditions de détention qu'on leur a données. Donc, c'est plus des chevaux sauvages. Donc, c'est aussi ça, faut adapter.
Adapté.
Si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est ça. Prendre de la distance. Et avant tout, ben, regarder le cheval. Voir qu'il va bien. Il vous le dit qu'il va bien. Et s'il va bien, ben, il va bien. Faut pas chercher compliqué. Faut pas se dire, peut-être que s'il a pas ça, dans 2 semaines, il ira pas bien. Non.
Ah non.
Faut pas chercher.
Il va bien, il va bien.
Il va bien. Aujourd'hui, il va bien. Et voilà. Ben, c'est un peu le chirurgien qui m'a appris à être comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et au final, bah, c'est bien aussi de faire comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, on verra.
Mmh.
Voilà, c'est pour ça que maintenant, je ne peux pas me projeter. Voilà. Je ne peux
pas
dire...
Ça fait un très bon mot de la fin.
Voilà.
Aujourd'hui, c'est comme ça.
C'est tout. C'est, faut pas faire des plans sur la comète. Et alors, moi, j'avais beaucoup ce tort de me projeter, de faire des plans, de me dire je ferai ci, je ferai ça... Voilà, il y a encore des choses que je veux faire avec mon cheval, mais peut-être que je les ferai, peut-être que je les ferai pas. Si j'arrive à les faire, tant mieux. Si j'arrive pas, ben, c'est que ça devait pas se faire.
Mais ouais, ça fait une bonne conclusion. En tout cas, vous êtes passé, enfin, oui, vous êtes passé par plein plein de choses, par plein de problématiques physiques pour Tinka, cette problématique émotionnelle pour toi. Donc merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec les auditrices de ce podcast. Beaucoup d'avoir osé te confier avec toute ta sensibilité et toutes tes émotions, ça fait du bien à entendre comme témoignage.
Merci, merci à toi, c'était sympa d'avoir pu expliquer tout ça verbalement, parce que c'est vrai que je l'ai un peu expliqué sur mon blog, mais c'est pas pareil, quand j'en parle avec les gens, c'est pas pareil que quand je l'écris sur le blog, il y a toujours une distance qui est faite.
Il y a une distance qui est faite entre le cerveau et... Il y a une distance plus grande qui est faite entre le cerveau et la main qu'entre le cerveau et la bouche.
Voilà, c'est ça. Et puis d'en parler, vraiment, ouais, c'est, je trouve que c'est important de partager cette expérience parce que quand ça m'est arrivé, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de monde qui avait vécu ça.
Mmh.
Mon coach m'a mis en contact avec une de ses cavalières qui avait connu ça, mais c'était pas tout à fait la même expérience. C'est son cheval, c'était génétique. Il avait ces fractures-là un petit peu de naissance, et du coup, il a été opéré jeune, ça a été géré, ça a été encadré. Mmh. Donc voilà, il a pu m'expliquer ce que c'était, mais c'était pas la même situation, c'était pas le même âge de cheval, et puis chaque cheval est différent. Donc c'est vrai que voilà.
Et, non, mais ça va faire du bien C'est pour ça que je voulais t'interviewer aussi, parce que bah, on est sur une histoire. Qui à un moment donné a pris un tournant dramatique et qui en fait se finit bien. Donc c'est aussi ce message-là. Voilà. Donc merci d'avoir transmis ce message d'espoir qu'en fait ça peut bien se finir.
Ça peut bien se finir. Il faut de la patience. Il faut avoir un mental d'acier aussi parce que voilà, il faut y croire. Mais après, jamais je me suis dit je vais refaire des concours avec mon cheval. C'est vraiment, je me suis dit. Si on me dit que, je ferai peut-être. Mais moi, ce que je veux, c'est de le revoir bien. En fait, c'était ça. C'était tout ce que je voulais. Je lui ai dit, tant que je revois mon cheval bien se déplacer, bien vivre, c'était le plus important. Voilà. Et le reste, c'est que du bonus. Donc là, maintenant, je vis que du bonus. C'est
génial.
Comme quelqu'un à qui on a greffé un cœur et on lui dit, une fois qu'il est à la greffe, il est en bonus. Et ben c'est pareil. on a notre seconde chance, mais maintenant, on ne va pas la cramer trop vite. On va faire attention. Voilà.
Merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt !